Le petit papier.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Je vous salue, Joseph, vous que
la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours.
Notre mort. Amen.
Notre Père Saint Jean,
priez pour nous.
En fait, on est des amis de la communauté Saint Jean. Alors on se présente, Jean-Luc et Anne-Claude Brison. Nous sommes mariés depuis 27 ans. Nous avons 5 enfants qui vont de 26 à... Je parle pas assez fort. De 26 à 13 ans. Notre fils aîné, Jean-Laurent, est marié et vit avec son épouse à Nancy. Voilà, puis après on a 4 enfants, une, 2 filles de 20, ça change, voilà, 24 et 22, et après 2 plus jeunes de 17 et 13 ans, voilà. Donc nous sommes restés dans une dynamique familiale avec 2 jeunes adolescents à la maison qui nous maintiennent jeunes.
Voilà. Alors, pourquoi nous sommes là ce soir ? Je pense que la raison principale pour laquelle nous sommes là, c'est pour rendre à l'Église ce qu'elle nous a donné. Nous avons une chance, vous allez le voir tout au long de la conférence, une chance extraordinaire, qui est l'Église. C'est-à-dire que le Christ ne nous a pas seulement laissé l'Esprit-Saint, il nous a laissé l'incarnation de l'Esprit-Saint. Et l'incarnation de l'Esprit-Saint, c'est l'Église. Et vous allez voir qu'elle a joué un rôle très très important dans notre parcours. Et donc pour ça, nous voulons rendre grâce et nous voulons aussi lui rendre ce qu'elle nous a donné. Nous aurons réussi si notre intervention provoque chez vous, aujourd'hui, ce soir, des actions concrètes. Pour chacun d'entre vous, parce que le Seigneur ne sait compter que jusqu'à un, donc il vous aime tous personnellement, et donc c'est à chacun de mener des actions comme vous allez le voir. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous, de façon à ce qu'on puisse avoir rendu un peu à l'Église ce qu'elle nous a donné.
Donc, voilà. Surtout qu'on ne soit pas venu pour rien.
Alors, vous allez voir qu'il y a 29 ans, nous avons été 8, comme moi, dans mon état de vie, à recevoir la même chose, un peu ce que vous allez recevoir ce soir d'ailleurs. Et j'ai été le premier à agir à la suite de ça. Et le dernier qui a agi, il s'est marié il y a 3 ans, à 51 ans, avec une femme qui en a 40, et ils viennent d'avoir leur première et dernière fille. Voilà. Donc moi, je vous recommande d'agir plus vite que... que...
Alors, on va vous raconter une histoire très simple. C'est la nôtre. Elle est absolument très banale. Et on va changer les prénoms parce que si jamais mes filles arrivent, que, voilà, c'est un peu plus à l'aise, quoi. Elle a un avantage, c'est que c'est la nôtre. Donc, on la connaît. On a l'expérience et du coup, on a un regard absolument serein parce que du coup, on est là et que ça va bien. Et qu'on a, enfin, on a un regard serein et surtout, on a les conséquences de tous les actes et de toutes les paroles et de tout ce qu'on a dit. On en a les conséquences aujourd'hui, toujours.
Voilà. Alors après, on pourrait se poser la question, mais... Ce qui nous est arrivé à nous il y a 29 ans, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui ? Alors, simplement, pour le savoir, il y a 29 ans, dans le golfe de Gascogne, un prêtre m'a dit...
Alors, il faut savoir qu'on s'est On s'est rencontrés aux Journées mondiales de la jeunesse. Ah oui, oui, on se coupe tout le temps parce que... Voilà. On s'est rencontrés aux Journées mondiales de la jeunesse pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, je faisais partie de l'équipe d'organisation du pèlerinage en bateau, la flottille Saint-Jacques. 70 bateaux, 500 équipiers, c'était un gros truc. On a donc traversé le golfe de Gascogne avec 8 étapes de la Trinité-sur-Mer jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était un défi très beau qui a été relevé. Moi, je faisais partie de l'équipe d'organisation, donc j'étais au courant de tout l'aspect technique, donc je faisais les équipages. Et ce jeune homme qui était à ma gauche, qui était jeune à l'époque, et qui restait jeune d'ailleurs, lui faisait partie de l'équipe d'organisation aussi, mais le côté... Toi, tu étais dans l'organisation... Enfin, il était dans la DG, quoi. Hein. Moi, j'étais l'aspect technique, lui était dans la DG. Voilà. Donc, je suis venue faire un stage à Paris, dans le cadre de mes études. Je faisais une licence de langues étrangères appliquées. Et donc, monter la flottille Saint-Jacques, comme j'avais dit... On arrivait à Saint-Jacques-de-Compostelle, était l'objet de mon stage. Donc, je restais 6 semaines à Paris. Voilà, pendant ces 6 semaines à Paris, j'ai été choyée comme jamais, parce que comme j'arrivais de Bretagne, tous mes copains marésiens m'avaient dit « Les Bretonnes, c'est connu, perdent toute leur valeur à la gare Montparnasse, donc on prendra soin de toi. » Donc, on m'a bichonné, on m'a sorti, j'ai fait des trucs impossibles et inimaginables avec des garçons très bien. Et c'était la très, très, très belle vie. Puis, ensuite, suite à ce stage à la Guilde européenne du RAID, j'ai loupé mes examens de septembre. Donc, mes parents m'ont dit, on te coupe les vivres, il faut que tu connaisses la fin et tu trouveras du travail rapidement. C'est ce qui s'est passé. Je suis donc montée à la capitale et laissant en Bretagne un garçon dans mon cœur et dans mon esprit. Lui, il ne savait rien. C'était tacite. On ne s'était jamais rien dit, mais on savait bien que on allait avoir une histoire après. Voilà, donc je venais à la capitale avec tous mes super copains là, qui prenaient soin de moi, en tout bien, tout honneur, sachant qu'il ne pourrait rien m'arriver puisque j'avais laissé un capital sentimental, on va dire, en Bretagne. Ça, c'est mon histoire. Voilà.
Alors, mon histoire à moi. En 1988, je termine mon école d'ingénieur et je m'apprête à faire l'année d'après une année d'école de commerce, un MBA, à l'EM Lyon. Et à la fin de mon école d'ingénieur, j'avais envie de faire quelque chose de vraiment masculin, trapu, velu, un vrai pélé, quoi. Parce que j'avais fait, pendant ma scolarité, le pèlerinage de Chartres avec les étudiants, mais je trouvais que c'était vraiment trop gentil. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait eu le dernier il y a 2 ans, ou l'année dernière, qu'il ne se faisait plus. Je pense que la raison principale, c'est parce qu'il était justement trop cool. Et donc, j'ai choisi un truc, à l'époque, le plus dur possible, mais pas trop cher, donc pas trop loin, parce que l'avion coûtait très cher à l'époque. Et donc, j'ai trouvé un pèlerinage qui s'appelait, qui existe toujours, qui est le pèlerinage polonais Varsovie-Częstochowa. Donc là, c'est bien trapu, c'est 300 km pendant 9 jours.
Et derrière le rideau de fer.
On ne fait que marcher, et en 88, c'était derrière le rideau de fer, donc on passait sous les militaires, etc., sous les fourches caudines des militaires. On avait rien à bouffer, parce qu'il y avait vraiment rien à bouffer en Pologne à l'époque, hein, ça a beaucoup changé. Et donc c'était super trapu. Et donc j'ai beaucoup aimé, j'en ai chié à tous les sens du terme, et pendant ce pèlerinage, je vais me confesser. Et je vais me confesser Donc il y avait un petit chapitre français dans le pèlerinage polonais qui était énorme. Et je vais me confesser, je trouve que c'est malin, je vais me confesser à un prêtre polonais. Et bien sûr, comme je me suis trouvé très malin, je m'en suis vanté à un prêtre français de notre chapitre. J'ai dit, oh, je suis super content, je me suis confessé à un prêtre polonais. J'ai tout dit, comme ça je suis tranquille. Et à mon avis, je suis pas sûr qu'il ait compris grand-chose. Et le prêtre français, donc la première intervention de l'église, le prêtre français me dit « Désolé, mais ta confession n'est pas valable. » Ce qui veut dire qu'en fait, tes péchés ne sont pas pardonnés et donc c'est comme si tu n'avais rien fait. Et là, je me dis « Ah bon ? Bon, bah d'accord. Est-ce que vous acceptez de me confesser ?» Parce que là, il fallait que... Il me dit « Volontiers. » Donc, il me confesse, et à la fin de la confession, il me dit « C'est très bien tout ça, mais tu comptes faire quoi de ta vie ?» Ah, je lui dis, je ne sais pas, là je vais faire une école de commerce, après je vais travailler. Non mais d'accord, mais ta vocation, c'est quoi ta vocation? Alors là j'étais un peu pris de court, mais bon, comme je n'aimais pas être pris de court, j'ai répondu très vite, bah moi je pensais le mariage. Ah très bien, ça me fait plaisir de voir que tu as choisi ta vocation. Et en fait, qu'est-ce que tu attends? C'est-à-dire, bah pour concrétiser ta vocation. Puisque tu l'as choisie, maintenant il faut la concrétiser. Alors moi je lui réponds un peu naïvement, d'avoir trouvé l'âme sœur, hein, parce que quand même ça se fait à deux. Et il me fait, ah ouais, t'attends que ça? Ah, je dis oui, si j'ai l'âme sœur, ouais, je pense que ouais, je suis prêt à me marier, ouais. D'accord. Ah ben écoute, il n'y a plus de problème, parce que les 15 jeunes filles que je viens de confesser à l'instant, je les connais, elles sont super bien, tu peux y aller, elles sont super prêtes. Tu prends celle que tu préfères, tu peux y aller, je te garantis, ça va super bien se passer. Et donc je ressors de la confession complètement en me disant, ce type, il est complètement à la masse. Complètement. Néanmoins, donc ça c'était le premier signe de l'Église, néanmoins, mon Pélé a quand même pas mal changé à partir de cette confession. Il restait encore, sur les 10 jours, il restait 5 jours avant d'arriver à Tchastorova, devant la Vierge Noire. Et c'est vrai que tous les soirs à la veillée, du coup, je regardais chacune des filles en me disant là, s'il fallait en choisir une, là, maintenant, ça serait laquelle? Et de fait, quand on a ce regard-là, c'est plus tout à fait pareil. Parce qu'on se pose vraiment la question, ouais, laquelle je demande, là, maintenant bon. Et puis bon, voilà, on arrive comme ça à Tchastorova. Et devant la Vierge Noire de Tchastorova, j'avais emmené en pèlerinage une amie, Marie-Laure, qui avait fini HEC, qui travaillait dans une agence de pub. Et on se retrouve avec Philippe de Saint-Germain devant la Vierge Noire. Philippe de Saint-Germain qui est maintenant le président de la Fondation de Services Politiques, peut-être que vous le connaissez. Et Philippe de Saint-Germain nous dit, à Marie-Laure, qu'il connaissait très bien, et à moi, il nous dit, le pape invite les jeunes à Saint-Jacques-de-Compostelle l'année prochaine. Est-ce que ça vous dit d'organiser un pélé? Et Marie-Laure fait... Ouais, d'accord, Philippe, mais par contre, les pélés à la con de Jean-Luc, c'est fini. Hein. Moi, je veux un vrai pélé et je te propose de le faire en bateau, sur des voiliers. Hein, ça va être plus sympa. Donc, je te laisse organiser les autres routes, à pied, à cheval, en vélo, comme tu veux. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est partie la flottille Saint-Jacques. Voilà. Et donc, Marie-Laure était la responsable de l'organisation. Moi, j'étais dans l'équipe d'organisation. On a recruté un directeur technique qui a recruté Anne-Claude. Et... on a organisé pendant une année ce pèlerinage, et la première fois que j'ai vu Anne-Claude, je me suis au moins dit, c'est sûr, s'il y en a une que je demande pas en mariage, c'est elle, parce que c'est pas qu'elle coche pas les cases, c'est qu'elle a aucune case. Donc
et moi quand je l'ai vue, je me suis dit, mon Dieu, ben tout mais pas ça, quoi.
Alors après,
bon, on est là quand même.
Donc on se retrouve en pèlerinage, donc sur le bateau. Et moi j'avais beaucoup de chance, j'étais sur le bateau avec Marie-Laure. On était quatre jeunes garçons, quatre jeunes filles.
Les plus beaux garçons de la flottille Saint-Jacques étaient sur ce bateau, et les plus jolies filles sur ce bateau. C'était quatre couples magnifiques. Donc, pas quatre couples, mais huit personnes.
Binôme.
Ouais, enfin. Et voilà.
Et donc, voilà, donc la flottille part avec ses 70 bateaux, 500 jeunes, animés par le père Marie-Alain de la Congrégation Saint-Jean, qui était le
directeur spirituel
du pèlerinage. Et moi, j'avais la chance, j'avais sur ce bateau, nous avions un prêtre, on a réussi à mettre un prêtre pour deux bateaux. Donc, il y avait 35 prêtres pour 70 bateaux. Donc, moi, j'avais un prêtre sur le bateau, et un prêtre qui était un prêtre catholique missionnaire qui était envoyé en mission à Sao Paulo, qui travaillait dans des bidonvilles. Et bien sûr, je me confesse. Et alors là,
Marie passe son temps à se confesser. Vivre avec une sainte, c'est normal. Hein.
Bien sûr, je me confesse. Et là, j'hallucine totalement parce qu'à la fin de la confession, il me ressort le même dialogue que le prêtre de Pologne. Donc à la fin de la confession, il me dit, bon, c'est bien gentil tout ça, mais bon, là donc t'as fini ton école de commerce et tu commences à travailler en septembre, très bien, t'as signé ton contrat de travail, c'est super, et c'est quoi ta vocation? Alors je lui dis, ça part commencer. Ma vocation, c'est le mariage. Et qu'est-ce que t'attends? D'avoir trouvé l'âme sœur. Il me fait, ah ouais, d'accord. Et alors lui, il me l'a joué autrement. Il m'a dit, j'ai compris que tu sortais d'une école de commerce, donc tu dois bien avoir un annuaire, un répertoire dans lequel tu as tes contacts. On n'avait pas de smartphone à l'époque, donc on avait des répertoires papier dans lequel tu as tes contacts. Donc est-ce que je peux savoir combien y a de contacts féminins en âge de se marier dans ton répertoire? Je sais pas, 35, 30, 35. Il dit, ouais, c'est bien. Tu as fait une école d'ingénieur, donc tu sais faire un classement. Donc tu mets en premier celle que tu préfères, en dernier celle que tu aimes le moins, et tu classes. Et il te faut combien de temps pour faire ça? Il me dit, 24 heures, 48 heures, ça doit quand même pas être très compliqué. Et il me dit, une fois que tu as fait ce classement, moi, je te le dis, c'est très simple. Tu prends la première, tu la demandes en mariage. Si elle dit oui, c'est fait. Si elle dit non, tu prends la seconde. Et en plus, il me regarde et il me fait, te connaissant les relations, etc., je pense qu'avant la troisième, t'as un oui. Je te parie, avant la troisième, t'as un oui. Est-ce que tu veux bien faire ça? Alors moi, je lui dis, d'accord. Il me dit, écoute, tu sais à quoi ça sert un pèlerinage? Je dis oui, c'est pour se rapprocher du Seigneur, tout ça. Non, un pèlerinage, c'est une démarche de conversion. Conversion, ça veut dire qu'on va dans une direction et qu'à la sortie du pèlerinage, on va dans une autre. Parce que si on sort du pèlerinage en faisant la même chose qu'avant, ça veut dire qu'on a perdu son pèlerinage. Est-ce que t'aimes bien perdre ton temps? Parce que là, tu fais des pèlerins, mais en fait, il se passe jamais rien. Bon. Très bien. Et puis c'est là qu'il ajoute, vous avez un problème en Europe, parce que moi, je suis sur mon bidonville. Et sur mon bidonville, j'ai des familles qui sont installées, là, qui trient les ordures et qui vivent de ça. Et les jeunes hommes, quand ils ont 18 ans, ils demandent en mariage la voisine qui a 18 ans. Et à 28 ans, ils ont une famille nombreuse, ils sont heureux. Et toi, t'as 28 ans, je sais pas ce que t'as fait depuis 18 ans, mais il se passe rien. Et pourtant, vous avez l'argent, vous avez l'éducation, vous êtes beau, vous êtes en bonne santé, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des familles, et il se passe rien. Donc vous avez un problème. Je sais pas quoi, mais vous avez un problème. Donc, est-ce que tu peux agir pour résoudre ce problème? Alors, là, il m'avait bien sonné une deuxième fois. Et j'ai foncé dans ma couchette. Et j'ai regardé ma petite icône et j'ai dit au Seigneur, c'est bon. C'est pas la peine de me le redire une troisième fois. Maintenant, c'est bon, j'ai compris. Deux fois, c'est bon. Donc, je te le promets, Seigneur. Avant la fin de ce pélé, il faut que j'ai trouvé ma femme. Voilà. Bon. Le coup du carnet, je ne sais pas si je vais le faire, mais par contre, je l'aurai trouvé.
Ensuite, tu l'as fait?
Je l'ai fait.
Il est arrivé en fait que j'étais en tête de classement. Mais le problème, c'est que j'ai dit non assez longtemps, parce que moi, j'avais mon ami de cœur en Bretagne. Donc, j'allais pas avoir cet ami encombrant qui posait beaucoup de questions, des questions très vraies, des questions qui me mettaient vraiment en vérité. C'était très désagréable. Donc l'ami de cœur que j'avais laissé en Bretagne était parfait parce qu'il était silencieux. Donc au moins, il ne remettait rien en question. Voilà, mais... Et puis moi, dans mon cœur, je me disais, oui, je vais me marier, mais c'était loin, quoi. Je me disais, voilà, je mène la belle vie à Paris, j'ai tous ces amis, c'est quand même trop sympa, je vais en profiter. Et voilà. J'éludais sec, je pense. Et voilà. Et là, on s'est rencontrés. Et Jean-Luc n'éludait pas du tout. Et donc, j'ai vraiment envoyé balader parce que c'était pas lui, quoi. Pour moi, clairement, c'était pas lui.
Voilà. Alors, c'est vrai que à partir du moment où le problème des garçons, c'est qu'il leur faut une échéance. Tant qu'il n'y a pas d'échéance, ça bouge pas. Donc ça bouge quand il y a une échéance. Par contre, quand il y a une échéance, en général, ça y va, quoi. Et donc moi, comme je m'étais fixé une échéance, fallait absolument... Et donc c'est vrai que là, le regard sur les jeunes femmes, sur les filles, change complètement. Parce que maintenant, l'objectif, c'est de la trouver et puis de signer. Puis on s'est engagé vis-à-vis du Seigneur à le faire. Parce que le Seigneur m'a dit un truc. Je lui ai dit, je m'engage à le faire. Donc maintenant, fallait le faire, quoi. Et donc c'est vrai que j'avais une échéance. Et donc... C'est vrai que j'ai dragué Anne-Claude, Anne-Claude m'a dit non, puis renom, puis renom, puis renom. Et moi, j'ai été revoir le Seigneur, j'ai dit, écoute, ça va bien comme ça. Moi, je fais ce que tu me dis. Maintenant, moi, je passerai pas sur la deuxième. Je suis têtu. Je fais ce que tu me dis, mais maintenant, toi, tu m'aides et tu fais en sorte que ça se passe bien. Moi, j'ai pas envie d'aller voir la deuxième, là. Donc voilà. Donc j'ai dragué Anne-Claude, j'ai fait du commercial intensif, si je puis dire.
Non, c'est vrai. Je pense que j'étais un peu forteresse, parce que vraiment, je repoussais, je faisais vraiment comprendre, je disais non, quoi. Mais lui, très patiemment, pendant 6 mois, m'appelait tous les jours... Me servait de chauffeur à Paris.
Pour l'emmener voir ses amis.
Pour l'emmener voir ses amis. Il ne montait pas dans les dîners, il m'attendait. Enfin, c'était assez impressionnant.
Et quand je me montais, je me faisais foutre de ma gueule par tous tes copains.
Oui, tous les... Voilà, vraiment, je l'ai mené... voilà. Mais en même temps, bon, voilà, chacun ses armes. Hein, bon. voilà, et puis... Bon, on s'entendait quand même très bien.
Ah bon ?
Ouais,
on s'entendait quand même très bien. Bah, c'est pas ce que tu disais.
Si, c'est non, on s'entendait très bien. Et puis, alors j'avais beaucoup de copains scouts. Ah, ils étaient tous scouts, ils avaient tous, à l'époque ça se faisait beaucoup, le pantalon de velours, la chemise, ils étaient tous super bien, 6e arrondissement, 15e. Vraiment, c'était... ils avaient une classe absolue. Je faisais des soirées dans les catacombes. Enfin, vraiment, la grande vie. Je dansais l'été sur la passerelle des arts. Enfin, vraiment, c'était... avec 5 cavaliers servants, c'était vraiment la grande vie. Puis lui...
Il n'était pas scout.
Voilà,
il posait des questions embêtantes.
Quand j'allais au cinéma, il ne payait pas la place. Enfin, c'était vraiment... no sense, quoi. Et puis... Et puis, au bout d'un moment, quand même, il s'était fait tellement indispensable. Indispensable, je sentais bien que j'avais du mal à avancer quand il n'était pas là, quand même. Et que, il s'est rendu indispensable. Un vrai commercial, ingénieur commercial, il avait fait sa stratégie, il est allé au bout de sa stratégie, bon, ça a marché. Voilà, et puis jusqu'au moment où... Bon, première demande en mariage, dit non. Deuxième...
C'était pas des demandes en mariage, d'ailleurs.
C'était...
Justement.
Oui, c'est vrai, d'ailleurs.
C'était pas des demandes en mariage.
Oui.
Et donc, à un moment donné, justement, je vais dîner chez mon amie Marie-Laure, qui m'appelle et qui me dit, alors... c'était 6 mois après la fin de la flottille Saint-Jacques, donc ça devait être en février, quelque chose comme ça. Donc Marie-Laure me dit, est-ce que tu as envie de dîner, qu'on parle un peu des suites de la flottille, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, etc. Et donc je lui dis, oui, très bien. Donc on dîne, et puis je lui raconte, je lui dis, oui, la flottille pour moi c'était un truc très bien, un très bon pèlerinage, et je pense que il y a des choses qui vont se passer là. Ah bon, c'est intéressant. Oui. J'ai une fille en vue là, je pense que je suis pas loin d'arriver
de conclure
là. C'est pas facile, mais voilà. Et bien, vraiment, c'est qui? Ben, je dis, c'est Anne-Claude. Ah, Anne-Claude, oui, c'est bien, oui, c'est bien. Elle connaissait très bien Anne-Claude. Oui, très bien. Mais, tu l'as demandé en mariage? Non, là, pour l'instant, on se voit assez souvent, elle a accepté de me voir un peu plus souvent, tout ça. Ah, elle me dit, d'accord, mais tu sais que tu perds ton temps. Ah bon? Bah oui, tu perds ton temps. Je veux dire, si tu veux avancer, il faut la demander en mariage. Hein, ça sert à rien. Donc, voilà. Donc la deuxième clin d'œil de l'église par les amis. Je dis, ah bon, d'accord. J'ai quitté son dîner. Donc c'était un soir, elle était dans le 17e, Anne-Claude était dans le 15e. J'ai quitté son dîner à 23h. À 23h30, j'étais chez Anne-Claude. J'ai sonné.
Je dormais.
Elle était en pyjama.
Je dormais.
Elle dormait. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure-là? Et je l'ai demandé en mariage. Bon, j'avoue, c'était pas très classe. Mais je l'ai demandé en mariage.
Ah non, pas à la personne. Eh ben, je peux vous dire que quand un garçon vous demande en mariage, après, ben, tout ça, on se calme, en fait. Hein. Parce que j'ai mis un certain temps à réfléchir. Enfin, j'ai donné ma réponse au bout de 15 minutes. Mais pendant 15 minutes, vous...
Ce qui fait une éternité, en fait. Parce que moi, pendant ça, je priais le Seigneur en disant, ah, faut qu'elle dise oui, hein, parce que si elle dit non, ça va pas le faire. Je te rappelle, ça va pas le faire. T'as fait ton job, j'ai fait mon job, maintenant t'y vas.
Donc, du coup, l'ami de cœur, celui qui disait rien avec la relation tacite et qui était super confortable, du coup, là, vous dites, bah oui, mais lui, il s'exprime pas, quoi. Et s'il s'exprime pas, c'est qu'il a rien à dire.
Pourtant, tu lui écrivais.
Ah oui, on s'écrivait beaucoup, parce que c'est un garçon qui aime écrire. Et en fait, le fait d'avoir été demandé par ce garçon qui était... Parce que le fait d'être demandé en mariage fait que vous vous regardez autrement. Parce que bah, tout change. Ah oui, enfin voilà, tout change. L'angle de vue, l'avenir, pourtant c'est un inconnu terrible. Donc si vous dites, le moment où vous dites oui, vous sentez bien que vous n'avez plus prise sur rien. Mais rien. Surtout quand, voilà, il est à milieu de correspondre au prince charmant auquel vous pensiez. Donc, voilà, pas de prise, quoi, rien. Et puis, pas de sécurité. Bon, ça, j'ai appris à vivre sans sécurité. C'est pas génial, mais voilà, on s'y fait. Et, voilà, là, nos fiançailles ont débuté. Ce soir-là. Donc mais ça change, voilà, c'était, je ne sais plus quel soir, on va dire un mercredi. Le jeudi matin, vous êtes autre. C'est absolument... voilà, c'est aussi phénoménal que 0 et 1. Hein, vous faites tous de l'informatique, là. Ah, c'est ça, c'est 0 et 1. Ce n'est pas que vous étiez rien la veille, mais que tout change. Votre façon de voir les choses, les personnes, les lieux, tout change. Et je me souviens très bien que pendant 3 mois, je traversais tous les soirs le pont Mirabeau. Et au lieu de répéter la belle, beau poème de Verlaine, voilà, au lieu de dire sous le pont Mirabeau, moi je me disais, est-ce que j'y vais vraiment, quoi ? Parce que, dites oui, mais enfin, les fiançailles, on a le droit de reculer. Enfin, voilà, c'est un temps très, très, très spécial et très riche. Et tous les soirs pendant le pont Mirabeau, je me souviens très très bien, ça a duré, je ne sais pas, 15 jours. Je me disais, mais je fais quoi ? Mais je fais quoi ? Mais je fais quoi ? Et au bout de 15 jours, il y a la fin du pont, je choisis le mec. Parce que ça ne peut pas durer, quoi. J'ai dit oui, mais en même temps, vous êtes travaillé, quoi. Ça travaille, hein, terriblement. Parce que quand vous avez dit oui à quelqu'un, ben, vous avez dit oui, mais du coup, vous en avez tous les autres. Hein. Et moi, j'en avais, hein. Alors, c'était le gros ménage quand même.
Oui, enfin, tu t'avais pas demandé.
Non, il m'avait pas demandé, on est d'accord. Mais j'avais quand même des soupirants, on va dire. Ils ne faisaient que soupirer, mais c'était des soupirants.
Ils aspiraient pas, oui.
Non. Et du coup, voilà. Et je me souviens très bien d'un soir où, à la fin du pont Mirabeau, j'ai dit, ok, c'est bon, je pars avec Jean-Luc, on se fiance, on y va et on essaye.
Alors, ce qui est extraordinaire pour les chrétiens et dont on ne se sert pas assez, ce sont les fiançailles. Les fiançailles, c'est vraiment un don, je ne sais pas si c'est un don de l'Église, mais en tout cas, c'est un don extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, dont il faut se servir, user et abuser, si je puis dire. Pourquoi ? À quoi servent les fiançailles ? À quoi servent les fiançailles ?
Ah, les fiançailles servent à être rompues.
À être rompues, voilà. Exactement. On va y revenir tout de suite. En fait, on va y revenir tout de suite. Les fiançailles, effectivement, servent à savoir si la personne avec laquelle vous envisagez de vous marier, c'est bien la bonne. On est d'accord, ça sert à ça. Les fiançailles servent à discriminer pour savoir si la personne avec laquelle vous êtes en train de cheminer, c'est celle avec laquelle vous allez vous marier. Voilà, quand on est fiancé, on n'est pas marié.
Le petit garçon de 13 ans, Charles, hier soir, m'a dit, mais...
À la prière.
Ouais, ça se clôture comment, des fiançailles ? Ben, soit ça se clôture par un mariage, soit ça se clôture par une rupture. Mais les fiançailles, c'est fait pour être rompu par le sacrement de mariage ou par une rupture d'un des deux. Et c'est très sain. S-A-I-N et S-A-I-N-T. Parce que... Du coup, vous êtes allé au bout de cet instant, de cette période qui est très très spéciale, qui ressemble à nul autre, puisque vous vous aimez et vous ne vivez pas ensemble. Donc c'est complètement paradoxal. Mais c'est ce paradoxe qui fait que vous savez à la fin si oui ou non c'est ça. Et c'est tellement clair, et c'est tellement net, que vous clôturez, comme il a dit, les fiançailles. J'ai trop vite là, c'est ça?
Non, très bien.
Vous clôturez les fiançailles par... vous êtes totalement libre et vous savez que c'est ça. Enfin, que c'est ça. Que c'est l'être aimé. Et que vous allez cheminer pour la vie entière après. Parce que il y a eu ce temps de fiançailles où les choses ont été dites en vérité, en transparence, où on acceptait d'exclure les autres pour se consacrer à une personne, de l'avoir unique, enfin de l'avoir sous l'angle de l'être que l'on va choisir pour vivre la vie conjugale. Et du coup, cette période de vie ne ressemble à aucune autre. Et tant qu'on n'est pas fiancé, on ne peut pas. On est très clair là-dessus. Enfin, on est sûr que c'est ça. On ne peut pas imaginer. Enfin, on ne peut pas cheminer vers le mariage. C'est-à-dire qu'une relation sentimentalo-gélatineuse, sur le canapé, tout ça, avec des DVD sympas, enfin, non, vous n'avez plus de DVD, avec des YouTube et des je ne sais pas quoi, c'est cool, voilà, on ne se dit pas grand-chose, mais on est quand même vachement bien ensemble, c'est confortable, là, ça, vous oubliez direct parce que vous n'avancerez pas. On avance à partir du moment où on se pose la question, enfin où. C'est toi qui dis là.
En fait, c'est vraiment ça la clé. C'est-à-dire que, puisque les fiançailles, c'est le moment où on discerne si la personne, c'est celle avec laquelle je veux me marier ou pas, ça veut dire qu'avant les fiançailles, vous ne pouvez pas savoir si c'est la bonne personne ou pas. Il faut bien avoir ça en tête. Avant les fiançailles, avant d'avoir demandé la personne en mariage, vous ne pouvez pas savoir si ça va être la bonne personne ou pas. C'est pas possible. Donc ça veut dire que vous allez demander quelqu'un en mariage dont vous ne savez pas si c'est la bonne personne ou pas. Si vous attendez de savoir que c'est la bonne personne pour la demander en mariage, eh ben vous ne ferez jamais rien. C'est la définition du truc. Vous êtes bloqué. Pourquoi ? Parce qu'effectivement... nous, on le sait en tant que chrétien, on ne connaît que ce qu'on aime. Pour le chrétien a compris que l'amour précède la connaissance. C'est-à-dire, on ne peut connaître une personne que si on l'aime. Donc, aimer une personne, c'est s'engager vis-à-vis d'elle. C'est avoir un engagement vis-à-vis d'elle. Et donc, d'une part, on ne peut connaître la personne que si on l'aime, donc que si on s'engage. D'autre part, l'engagement va révéler la personne. C'est-à-dire, c'est exactement ce que dit Anne-Claude, la personne, la fiancée que vous avez en face de vous n'a plus rien à voir avec la personne que vous avez demandé en mariage. Donc, à partir de là, parce que, évidemment, comme nous sommes des personnes, l'amour nous transforme, évidemment, et les actes que nous posons nous transforment aussi. C'est-à-dire, quand je demande quelqu'un en mariage, ça me transforme par le simple fait de le faire.
D'ailleurs, je vais vous raconter une petite blague. On a des très bons copains qui s'appellent Laurent et Elisabeth. Voilà, j'espère que leurs enfants ne sont pas là et qu'ils ne vont pas se reconnaître. Bon, voilà. Mais on avait fait un dîner comme ça pour se raconter nos histoires de demande en mariage. Et Laurent explique... Alors moi, ils étaient un peu âgés, ils avaient 35 ans, je crois, quand ils sont demandés en mariage. Et Laurent avait déjà bien... il savait que c'était Elisabeth. Donc, commande un super restaurant pour l'inviter à dîner en tête-à-tête pour lui faire sa demande en mariage. Le truc, une étoile au Michelin, enfin la totale. Il lui fait vraiment la totale. Il avait déjà la bague dans la poche, enfin vraiment la totale. Et alors il nous a raconté, moi ça m'a toujours fait rire, je pense que ça vous fera rire, vous rirez par politesse. Donc ils vont dans ce restaurant, alors vous savez, dans les grands restaurants étoilés, la femme qui a la carte n'a pas les prix. Donc, elle prend, donc ils prennent, voilà, chacun prend son repas.
Elle a pris un truc très très cher, il se rappelle encore.
Oui, c'est ça, mais non, mais c'était super drôle. Non, mais c'était
elle a pris le truc le plus cher de la carte et il m'a dit, je sais pas comment elle a fait pour le trouver parce que.
Et c'était mais super drôle parce que donc ils se sont pris vraiment un repas, enfin c'est sympa quoi, voilà, un truc étoilé. Et lui, tant qu'il n'avait pas posé sa question, n'a rien mangé. Il avait son plat, il n'y arrivait pas, il n'arrivait pas, et elle comprenait pas. Enfin, elle savait bien qu'il y avait quelque chose, mais. Puis elle mangeait, était toute détendue, ravie. Vous imaginez, un restaurant étoilé, c'est quand même la classe internationale. Donc voilà. Et puis lui, il se dit, c'est pas possible, je vais avoir ça, puis pas manger. Donc il pose sa question. Ah, il dit, puis tout détendu, là j'ai pu manger. Et puis elle, je l'ai vue en face, elle a eu son deuxième plat, elle a rien mangé. Tellement elle était loupée. Parce qu'il fallait donner la réponse. Et ils ont dit, c'était le dîner le plus horrible de la Terre. En plus, ça vous a fait rire, c'est sympa. Et ils se sont dit oui à la fin. Il a pu offrir la bague, parce que c'était majestueux. Quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Alors, fort de ça, vous comprenez bien que... alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le risque et qui pense d'ailleurs que le Seigneur aime les gens qui prennent des risques. Néanmoins, là, en l'occurrence, je suis obligé de vous dire qu'il n'y a aucun risque à se fiancer. Absolument aucun risque à se fiancer. Pour la bonne et simple raison que, comme vous l'a expliqué Anne-Claude, les fiançailles vont être un moment de discernement. Et ce que nous pouvons vous assurer avec une certitude absolue, c'est que le jour de la veille de votre mariage ou la semaine qui précède votre mariage, vous avez une certitude absolue que c'est elle ou que c'est lui. C'est-à-dire que vous n'avez aucun doute quand vous posez l'acte de vous marier. Si vous avez fait des vraies fiançailles chrétiennes, vous n'avez aucun doute. Donc ça veut dire que vous n'avez aucun risque à vous marier. Pourquoi ? Parce que soit vous allez, pendant vos fiançailles, acquérir la certitude absolue que c'est ça, sans aucun doute, soit vous allez acquérir pour vos fiançailles la certitude absolue que c'est pas ça et que ça va pas le faire. Donc le risque, in fine, il est nul dans le fait de poser cet acte. Qui plus est, si c'est vécu comme des vraies fiançailles chrétiennes, il vaut mieux à la limite se fiancer deux fois avant de se marier que ne jamais se fiancer. Si on se fiance jamais, on se marie jamais non plus. Hein. Donc... voilà. Après, les recommandations qu'on peut donner sur les fiançailles, c'est qu'il faut vivre des fiançailles chrétiennes, et donc il faut être accompagné par l'Église. Là aussi, on a eu encore des clins d'yeux du Seigneur, et heureusement que l'Église était là, sinon on ne se serait pas mariés.
J'ai rompu deux fois mes fiançailles. Mais on est voilà. J'ai rompu deux fois mes fiançailles. Non,
toi une fois, moi une fois.
Oui, on a rompu chacun.
S'il te plaît.
Bon, on a des tempéraments forts. Et c'est vrai qu'on se disait les choses, on était assez clash.
Oui, tu peux peut-être raconter comment on a engagé notre préparation au mariage, en fait.
Ah oui.
Après la flottille, quand tu as annoncé. En fait, j'ai demandé à Anne-Claude en mariage. On était fiancés, donc on s'est fiancés un soir à 23h30. Et dès le lendemain, tu appelais le père Marie-Alain.
Donc c'est ça, donc c'était le directeur spirituel de la flottille Saint-Jacques. Je l'ai appelé à Rimont, là où vous allez en Bourgogne là, pour le week-end du 14-15 juillet. Ça, faut pas hésiter parce que c'est tip-top. Et d'abord, vous pouvez rencontrer beaucoup de directeurs spirituels qui peuvent vous accompagner. Non, mais c'est pas ça. Mais donc, j'ai appelé le père Marie-Alain, qui est au Canada maintenant. Et je lui ai dit, on sait, voilà, Jean-Louis m'a demandé en mariage. Ah, très bien, il faut venir nous le raconter à Rimont. Venez, venez, venez. Du coup, on est allé. Un peu, on aimait beaucoup la communauté Saint-Jean, mais on n'avait pas établi des plans, machin. Et du coup, on a été suivants. On allait à Rimont, donc c'est en Bourgogne. On allait à Rimont tous les 5 semaines à peu près. Passer un week-end entier, 3 jours. Enfin, vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Et ça a été, nous, ça a été extraordinaire, parce qu'à chaque fois, on voyait un père, on le voyait 2 à 3 fois par week-end, des conversations de 2 heures.
Et entre-temps, on se parlait.
Et entre-temps, on se parlait, en fait, du coup. Et c'était énorme.
Et un de ces fameux week-ends, Anne-Claude m'avait révélé un certain nombre de choses qui ne m'avaient pas vraiment plu. Et je lui ai dit, bah, écoute, si c'est comme ça, moi, je romps mes fiançailles. Et donc, on a rompu nos fiançailles à Rimont. Et bien sûr, bon, bah, donc, c'était un week-end. J'avais récupéré la bague, bien sûr. Et j'avais été voir le père Marie-Alain en lui disant, voilà, nous avons rompu nos fiançailles. Il m'a dit, nous avons, il y en a un qui rompt en général. Je dis, oui, c'est moi, j'ai rompu les fiançailles. Et il a dit, attends, viens voir par ici, là. Il m'a dit, il m'a demandé, mais pourquoi t'as rompu tes fiançailles? Et donc je lui ai dit pourquoi j'avais rompu mes fiançailles. Et il m'a dit, ah, d'accord. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que t'es égoïste. C'est incroyable. T'as bien fait de rompre. T'as bien fait de rompre parce qu'elle ne pourra pas être heureuse avec quelqu'un d'aussi égoïste que toi. T'es totalement incapable d'aimer, en fait. Tu vois que ton intérêt. Enfin, c'est incapable de te donner. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais t'as raison. Alors, moi, je commençais à réfléchir. Je dis, ah bon. Elle me dit, oui. Elle a un grand cœur. Mais toi, oulala, c'est plutôt sec, hein. Et je lui dis, mais... vous me conseillez, en fait. Vous pensez que j'ai fait une bêtise? Il me dit, ben, là, ouais, je serais de toi. Je courrais lui demander pardon, hein. Et puis, je prierai pour qu'elle dise oui, hein, parce que c'est pas obligatoire, hein. Elle peut dire, bah non, bah du coup, je vais voir ailleurs, ça m'a dégoûté, bon. Et donc, là aussi, il nous a sauvé la mise, quoi. Clairement, il nous a sauvé la mise. Il faut savoir que les gens qui vous taillent, en général, sont les gens qui vous veulent du bien. C'est un signe, c'est souvent un signe. Les gens qui vous taillent un peu sont les gens qui veulent du bien. Et donc là, on a repris nos fiançailles dans la foulée grâce à lui, quoi. J'hésite pas à le dire. Donc se faire aider et puis vivre des vraies fiançailles et être accompagné, surtout être accompagné. Voilà. Des bonnes vraies fiançailles, donc des fiançailles, je dirais, ça doit durer je dirais au minimum un an, c'est-à-dire qu'il faut voir
les quatre saisons.
L'autre sous les quatre saisons, c'est bien. Les quatre saisons, c'est bien. Donc, je dirais au minimum un an.
Si c'est pas skier, que vous êtes fan de ski, je sais pas moi. Si, je sais pas, il déteste l'Italie et que bon, j'ai n'importe quoi parce qu'en fait, moi, j'aime pas tellement skier et puis, j'ai épousé un super skieur. Alors bon, mais enfin, en fait, il n'y a pas de critères parce que vous sentez bien que ce qui est fou aux yeux de l'un est juste à vos yeux. Et voilà. Si vous avez votre regard avec l'amour que vous posez sur ce regard, donc l'autre est éclairé d'une toute autre façon, et vos amis, les autres, ne peuvent pas le voir comme vous le voyez, parce que vous l'aimez, donc vous lui donnez une aura, un éclairage très spécial. C'est ça qui fait que les fiançailles sont un temps absolument exceptionnel, parce que vous illuminez l'autre de la tendresse et de l'amour que vous voulez donner, et du coup vous lui donnez un reflet, vous lui donnez une amplitude, vous lui donnez une profondeur que lui-même ne connaît pas, parce que vous voyez au-delà. Enfin, c'est le temps des fiançailles est un temps exceptionnel. C'est très dur parce que on vit pas ensemble, c'est aussi bête que ça. On vit pas ensemble, faut se quitter le soir, on n'a pas envie de se quitter, on a envie de vivre ensemble. Et le temps des fiançailles, justement, taille, met en exergue, souligne le vide quand l'autre n'est pas là. Souligne le fait que vous avez besoin absolu de l'autre pour être vous-même. En fait, les fiançailles vous révèlent à vous-même. Il fait que l'autre, vous êtes handicapé quand l'autre n'est pas là. Vous ne pouvez pas être vous-même. Voilà, je ne vais pas te dire 20 000 fois.
Alors, vous allez me dire maintenant, c'est bien gentil tout ça, mais alors, si on ne peut pas savoir avant, est-ce qu'il y a un critère pour demander quelqu'un en mariage? Est-ce qu'il y a au moins, quelque chose? Parce que si on ne peut pas savoir avant. J'ai tendance à dire, avec le recul et l'expérience, que je ne verrai qu'un critère. un seul, c'est que la personne ait le même objectif que vous, à savoir de devenir un saint et de considérer que le mariage est un chemin pour devenir un saint et que votre rôle dans le mariage, c'est de faire de l'autre un saint et de vous laisser sanctifier par l'autre. Voilà, c'est tout. C'est le seul critère. Si, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas le même objectif, s'il y en a un qui se marie pour des raisons, je ne sais pas, qui n'ont rien à voir avec ça, bon, voilà. Mais si ça, ça existe profondément dans le cœur de l'autre, j'aurais tendance à dire, on peut se fiancer. Après, j'ai pas dit que... voilà. Après, bah, les fiançailles détermineront si... En général, il y a aussi un autre petit truc qui est que on choisit en général quelqu'un qui a quelque chose que j'ai pas. Il y a quelque chose en l'autre qu'il a reçu que j'ai pas reçu moi et qui m'attire. Voilà, un petit quelque chose que j'ai pas et qui m'attire. C'est et je me dis ça et moi j'ai pas ça et bon. Et
bah vous avez entendu tout à l'heure, lui il avait pas de cœur, moi j'en avais, c'est aussi facile.
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah oui, le fait de devenir des saints, bon, vous avez tout de suite vu qu'on n'avait pas d'auréole, donc la sainteté dans le mariage n'est pas si simple. D'ailleurs, je ne pourrais pas vous en parler parce que je ne sais pas très bien ce que c'est. Mais tout ce que je sais, c'est que la complémentarité des caractères, aussi fort soit-il, parce qu'on a des caractères assez forts, vous pouvez plus comprendre, fait qu'on avance quand. Enfin, vous voyez, par exemple, cette conférence, quand Jean-Luc m'en a parlé, mais j'ai hurlé. Mais, vous avez entendu,
c'est vrai.
D'ailleurs, je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas faire ça, quoi. Et bah voilà. Finalement, bah, dans l'obéissance, alors. Je ne suis pas voilée, tout va bien. Hein. Mais dans l'obéissance, je me suis dit, s'il me propose ça, c'est que ça peut être bien. Bon, moi, j'ai un mari qui adore parler. Bon, donc voilà, il aime les conférences, tout ça. Moi, je cours un peu moins après, mais après, je me suis dit, mais oui, nous, on a vécu un truc. C'était ce que c'était. C'était Jean-Luc et Anne-Claude et voilà. On n'a rien à. On n'est pas Enfin, je sais pas. Bref, on n'est pas un. Enfin, on est un témoignage peut-être, mais on n'est pas un exemple à suivre. Voilà. On est que ce qu'on est. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup reçu en étant très obéissant à ce que demandait l'Église. C'est-à-dire que pendant nos fiançailles, on a lu. On m'a évité, on a lu les encycliques, on a lu c'est quoi une famille. La communauté Saint-Jean nous a beaucoup aidés avec beaucoup de conférences, beaucoup de tous ces entretiens très particuliers avec le père qui est un des fondateurs de la communauté, enfin l'un des 8 premiers de la communauté. Donc voilà, et c'était impressionnant quoi, parce qu'on apprenait, énormément de choses.
Toujours obéir à l'Église, surtout quand vous comprenez pas pourquoi elle vous demande ça. C'est là qu'il faut obéir.
C'est d'ailleurs là qu'on obéit. Autrement, on n'obéit pas. Autrement, on adhère.
Exactement.
Il ne faut pas avoir peur de l'obéissance. C'est quelque chose qui fait absolument grandir. Pas vous dire, oh là là, non mais la petite Madame Brison, là, elle a l'air d'être toute obéissante à son mari, ça doit être quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne suis pas complètement soumise et, voilà, et bénie oui-oui à la maison. C'est, on parle, je gueule, il rouspète. Enfin, c'est vraiment, ça cause, quoi. On en parle et puis voilà, il y a de l'échange, on va dire. Et après, vous voyez, là, je réalise, bah, je dis, bah oui, ça me fait grandir tout ce que je vous raconte là ce soir. On va rentrer à la maison, c'est sûr, ça m'aura fait grandir. Parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez besoin de ce témoignage, mais nous, en tout cas, ça nous aura fait grandir. Vous, bah, vous vivez votre vie. Et nous, alors, on ressort plus grand de ça.
Alors maintenant, quelques petits conseil personnalisé aux garçons puis aux filles.
Alors les filles, mettez vos écouteurs, vous branchez sur une.
Non, surtout pas. Il faut que chacun écoute les conseils qui sont donnés à l'autre. Très important. Alors en fait, c'est assez simple. L'homme est dans l'action et la femme est dans l'accueil. Donc c'est ces deux mots-clés qu'il faut retenir. D'ailleurs, c'est très très clair dans l'Évangile, si on reprend l'Annonciation. L'Annonciation finit, pour ce qui concerne Marie, par « Que tout se passe pour moi selon ta parole ». Que tout se passe pour moi selon ta parole. Et l'Annonciation finit côté Joseph par « Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit ». Donc il y en a bien un qui est dans l'action et l'autre qui est dans l'accueil. Alors, côté garçon, évidemment, vous avez bien compris, c'est le garçon qui demande la fille en mariage.
Et c'est très important que ce soit la fille qui demande, que ce soit le garçon qui demande la fille en mariage. Pardon. C'est très important. Je l'ai encore expliqué cet après-midi à ma kinésithérapeute qui a 25 ans, qui vit avec son mec, qui lui a dit, mais le mec demandait, mais vous êtes hyper, mais c'est une société hyper machiste. Et ben je vous, non, c'est pas du tout machiste. C'est très très important. Parce que c'est vous qui faites le premier pas, messieurs. Et là, la femme, elle se dit, oh, mais c'est la totale. C'est moi qui le veux. Mais vous n'imaginez pas le séisme qui se passe après dans le cœur de la jeune fille. Faites-le au moins une fois pour voir. Et devant vous, vous aurez un Etna en fusion. Non, mais voilà, moi je vous le dis comme ça.
Donc vous pouvez le faire dès ce soir.
Voilà, c'est ça le truc de ce soir.
Dès ce soir. Moi je l'ai fait une heure après qu'on m'ait dit de le faire. Donc...
Il n'y a plus aucun risque à se fiancer, il n'y a aucun risque à se fiancer, mais il y a tout à perdre si on ne le fait pas. Vous comprenez bien le deal. Si vous posez la question et que vous recevez une veste, bah vous recevez une veste. Ma foi, bah voilà, c'est un petit peu d'humiliation, donne un peu d'humilité. Et puis voilà, et puis on repart, on se relève. Puis de toute façon, la fille, elle aura réfléchi. Et puis deux mois, deux semaines, elle vient vous voir. Finalement, elle était pas mal ta question l'autre jour.
Oui, alors il faut aussi se désintoxiquer du monde. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si on commence à demander deux ou trois fois à une fille si elle veut se marier, on est en harcèlement. Si on écoute Marlène Schiappa, c'est la prison, quoi. Parce que c'est du harcèlement. Elle vous explique que quand c'est non, c'est non. Ben non, Anne-Claude, ça a été non pendant 6 mois. Donc non, quand c'est non aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera oui. Et puis, les gens changent, les gens réfléchissent, les gens prennent du recul et ils peuvent changer d'avis. Donc, poser une question à quelqu'un, c'est pas le harceler. Je suis désolé, c'est pas le harceler. Voilà, bien sûr, on fait pas de harcèlement physique, mais c'est pas le harceler.
Il y a une autre chose aussi. C'est que vous êtes très nombreux ce soir. Moi, je suis très très impressionnée parce qu'on pensait qu'on serait très peu. Et... Il faut pas vous faire d'illusions. Si le bon Dieu... ne veut pas que vous vous rencontriez, il vous mettrait pas... Je dis pas que tout le monde doit se marier ce soir entre vous. Hein. Mais je dis, faut pas avoir peur, parce que le bon Dieu, il met bien celui qui veut que vous rencontriez pas loin de vous. Si vous devez rencontrer Charles Dupont et qu'il est en Asie, ne vous inquiétez pas, vous le rencontrerez à l'aéroport ou dans le train, ou parce que vous irez en Asie ou je sais pas quoi. Il ne faut pas vous inquiéter. Mais... on est dans la main du Seigneur. Le Seigneur ne veut que notre bien.
Et Mais d'un autre côté, il ne veut pas faire le travail à notre place. Donc, il vous demande à vous d'agir. Et, encore une fois, là aussi, si par hasard vous vous trompez dans votre action, si le Seigneur ne veut pas vous marier, il ne vous mariera pas. Enfin, c'est le Seigneur qui donne son sacrement, quand même. Hein. Il est Dieu. Donc, si on croit en Dieu, s'il ne veut pas vous marier, il ne vous mariera pas. Ou alors vous forcerez sa volonté, c'est-à-dire que vous aurez des signes clairs qu'il ne veut pas le faire et vous allez violer sa volonté. Mais si vous faites ça, bah vous faites ça. Mais, enfin, je veux dire, ça sera clair, quoi. Moi, j'ai un ami à qui le prêtre a dit « Je ne veux pas vous marier ». Il a été voir un deuxième, puis un troisième. Bon, bah après, il en a fini par en trouver un. Mais après, ça s'est passé comme ça s'est passé.
Alors, vous avez bien compris. Donc, ce soir, voilà, vous devez demander quelqu'un en mariage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que vous avez fait ça, c'est qu'il faut annoncer publiquement que vous êtes fiancé. Et ça change tout. Vous ne présentez plus, je te présente Géraldine, une copine. Non, je te présente ma fiancée. Eh ben alors là, c'est pour le jeune homme qui a son cœur qui qui palpite, et la jeune fille, je suis sa fiancée. Je vous promets, c'est explosif. Enfin voilà, c'est serré, bien. Voilà. D'autre part, l'autre chose annoncée publiquement, c'est qu'en fait les amis peuvent vous aider. La famille, enfin la famille, on en parlera après. Enfin les amis, les amis. Moi, tous mes copains, quand j'ai dit que bah que finalement je prenais Jean-Luc, que je fiançais, sont tous venus me voir les uns après les autres. Oh, mais t'es dingue, c'est pas du tout pour toi. Enfin, ils me l'ont cassé, bien cassé, quoi. Hein. Et moi, j'avais trouvé quelqu'un, en fait, qui était... ils étaient tous ses copains, ils étaient tous scouts, très bien, propres sur eux, 16e, tout ça, 6e, 5e arrondissement, ils étaient tous très, très bien. Mais ça n'avançait pas, quoi. Tandis qu'avec Jean-Luc, là, ça avançait, bon, on passait carrément la 6e, quoi. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas, mais... ça avançait, c'était les bonnes questions, et puis t'as réfléchi à la question précédente, c'était... fallait cocher les cases, quoi. Là, il y avait des cases, hein. Ensuite, c'est un copain qui... un ami prêtre qui nous a dit ça, c'est un copain aussi, mais c'est un ami prêtre qui nous a dit « Oulala, quand on est fiancé, il y a a ring and a date. » Alors, la ring, bah, c'est si on peut, et puis si... voilà. Mais la date, donc la date, c'est très important aussi. Parce qu'on ne dit pas, je te demande mon mariage, et puis on se fiance, puis on va voir, quoi. Alors c'est vrai qu'on va voir. Mais il faut quand même une date butoir, quoi. Parce que les fiançailles qui durent 3 ans, 4 ans, c'est impossible, ça. Parce que normalement, les fiançailles éveillent le désir de vivre ensemble. Donc, où on vit ensemble, bon, bah, on ne se marie pas. Ça, c'est votre problème, mais c'est dommage. Où on... bah, ça fait un éclat de tonnerre. Mais il faut une date pour avoir une comme un échéancier, en fait. Et puis qu'on arrive à quelque chose, quoi. On ne se fiance pas comme ça, pitchouloute, pour une belle bague. Voilà. Non.
Donc, et puis vous avez compris aussi que pour le garçon, tant qu'il n'y a pas d'échéance, il ne se passe rien, en fait. Par contre, quand il a une échéance, c'est-à-dire quand il a une date de mariage... là, je peux vous dire que ça carbure pour essayer de savoir si c'est vraiment ça qu'on veut faire ou pas. Et donc, c'est là que les choses avancent, et c'est là que ça dépote et que ça décrasse à fond. Donc, la date, en fait, on demande la personne en mariage, on est fiancé à partir de la demande privée, hein, bien sûr. Ensuite, il faut que les familles se rencontrent très rapidement, et il faut fixer une date. Alors la date, ça peut être un an après, ça peut être 18 mois après, ça peut être 2 ans après. J'ai tendance à dire qu'un an, c'est le minimum. Quand on a plus de 25 ans, c'est presque aussi le maximum. Bon, quand on a 20 ans, on peut se fixer 2 ans de fiançailles ou 3 ans si on veut. Mais à mon avis, à 25, 27, 28, c'est pas trop l'objet, quoi. Voilà, donc ça c'est conseil aux garçons. Conseil aux filles.
Alors les filles, si vous voulez devenir religieuse, ce qui est une très belle vocation, très très belle, il faut le dire. Parce qu'on ne devient pas religieuse parce qu'on n'a pas trouvé de mari. On devient religieuse, vous avez bien compris, parce qu'on choisit le Seigneur aussi. Et que le Seigneur vous choisit. Le Seigneur, quelque part, il vous demande en mariage. Parce que nous, on avait une copine... enfin, c'est pas... enfin, bref, on connaissait quelqu'un. Il disait, non mais en fait, c'était quoi déjà ton... c'est...
Elle était consacrée au Seigneur.
Mais elle le disait à personne. Donc en fait, comme ça, si elle trouvait pas de mari, restait consacrée au Seigneur. Mais si quelqu'un venait la demander en mariage, elle était plus du tout consacrée au Seigneur. Donc c'était trouble, quoi. C'était pas choisi. Quand on a choisi sa vocation, quand on dit « moi, je veux bien être épouse et devenir un jour mère de famille ou avoir une certaine fécondité.
» Fécondité biologique ?
Eh bien, moi, il ne faut pas hésiter à le dire, les filles. À dire « moi, je veux bien me marier. » Alors, évidemment, vous n'allez pas avoir tout de suite 20 garçons qui vont sauter dessus, peut-être pas. Mais il faut dire « oui, moi, je veux bien me marier. »
il vous revient pas de demander en mariage, mais il vous revient de choisir votre vocation et de l'annoncer. Ça doit être public, les gens doivent savoir que vous souhaitez vous accomplir dans le mariage. Voilà. Et il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur le sujet.
Vous pouvez pousser les garçons à passer à l'action. Quand vous pensez que Paul aime Géraldine et vous, vous êtes Joséphine, la Joséphine, elle peut aller voir Paul et dire, dis donc, tu fais quoi avec Géraldine? Nous, on a eu des amis qui nous ont fait ça. Ben, ça nous a drôlement aidé de dire, vous faites quoi là? Maintenant, tu la demandes en mariage et on y va.
C'est Marie-Laure qui m'a sauvé, oui.
Parce que autrement, on peut s'installer dans une petite, comme je vous disais, une relation sentimentalo-gélatineuse sur le canapé, tout ça, c'est joli, joli. Ça n'avance à rien. Et puis, vous vous enfermez dans une espèce de relation qui vous détruit quelque part, parce qu'elle ne vous fait pas avancer.
Tout à fait. Donc, il ne faut pas hésiter à vous aider les uns les autres. Okay, il faut que les garçons aident les filles à être accueillantes et que les filles aident les garçons à passer à l'action. Voilà, il ne vous est pas interdit d'être des vrais amis les uns pour les autres et de vous bousculer un peu sur ces sujets-là. Il n'y a pas de mal à ce qu'une fille dise à sa meilleure amie « Bah tiens, celui-là, s'il me demande en mariage, je ne dirais pas non. » Puis après, bah voilà, il se passe ce qui se passe.
Et puis la famille. Alors il faut savoir quitter ses parents. Hein. Les parents, voilà, vont vous dire oh ben non, tu peux pas l'épouser. Écoute, il est fermier dans le Larzac. Tu vas être avec des fromages de chèvre et de brebis. C'est quand même un peu lourd, quoi. Hein. T'as quand même fait HEC, X et Napon. Beaucoup ça. Bref, c'est pas pour aller sur le Larzac, quoi. Dans le Larzac. Enfin, sur le Causs. Voilà. C'est un peu lourd. Eh ben non. Parce que si vous aimez Paul et qu'il fait ses petits chèvres dans le Larzac, là, eh ben on y va. Parce que de toute façon, on a besoin de bio, de bons chèvres et tout ça. Donc, HEC Pont, ça va servir. Hein. Mais. Non, il faut pas écouter les. Enfin, il faut pas écouter. Évidemment. Le bon sens, les femmes en sont fort dotées. Aidant, on est bien d'accord que si vos parents vous poussent, vous disent à vos garçons, là, dis donc, on voit un peu trop Géraldine, tu fais quoi avec... Ça ne te regarde pas. Je lui dis, si, ça te regarde. Parce que tu es mon fils et tu ne perds pas ton temps, ni ta vie, ni ton énergie, ni ta virilité. Tu te trompes pas, là. Une fille, on ne sort pas avec. On la demande en mariage. Et tu nous ramènes pas, ouais, je vous amène une copine. Non. C'est une fille, on sort pas avec. On la demande en mariage. Il n'y a rien de plus digne qu'une fille, qu'une jolie fille, une jeune fille. C'est très, très digne. Donc on la demande en mariage, mais on sort pas avec.
Mais vous
n'entendez
pas par sortir avec.
Alors. Bon, on n'a pas.
Sortir avec, pour moi, c'est faire connaissance, c'est passer du temps ensemble. Alors. Vous entendez, genre, passer à.
Voilà, c'est ça.
Alors, on va être.
Pardon.
C'est pas le même sens.
Voilà, alors sortir.
On va être très, très cash.
Voilà. Oui,
ouais. En fait, la recommandation qu'on vous donne, c'est d'avoir vraiment une vie qui soit. Le chrétien doit avoir une vie extérieure qui soit accordée à son état de vie. Une vie publique et privée qui soit ajustée à son état de vie. C'est super important, surtout aujourd'hui dans un monde qui est complètement déboussolé. Donc autrement dit, il y a trois états de vie. Il y a célibataire, célibataire fiancé, parce qu'en étant fiancé, on est toujours célibataire, mais on est fiancé, et il y a marié. Et donc la règle, elle est simple, c'est on se fiance, on se touche, on se marie, on couche. Voilà. Donc,
célibataire fiancé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas. Vous, si vous voulez.
Fiancé, vous êtes fiancé. Mais.
Mais du coup, on n'est plus célibataire.
Bah, si, en fait.
Bah, vous n'êtes pas marié.
Vous n'êtes pas marié.
D'accord, mais célibataire, comment ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé l'âme sœur? Célibataire, c'est qu'on va dire non marié.
C'est ça. Donc, sur votre état civil, fiancé, ça n'existe pas. Vous êtes célibataire. Et de fait, d'ailleurs. Voilà. Non, mais. Et de fait, d'ailleurs, c'est quand même. Non, mais. C'est très très juste, c'est très important. Quand vous êtes fiancé, vous êtes fiancé. Donc vous avez annoncé publiquement que vous aviez une fiancée. Mais attention, vous restez célibataire au sens où vous restez libre de votre vie. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, vous n'êtes plus libre. Si, quand je suis marié, si je veux sortir un soir avec des copains, etc., évidemment, mon épouse est au courant, elle est d'accord, si elle n'est pas d'accord, on en discute. Quand je suis fiancé, c'est très différent. Quand je suis fiancé, donc j'ai des moments avec ma fiancée, je la vois très souvent, aussi souvent que je veux, j'ai des choses à voir avec elle, j'ai des discussions à voir avec elle, mais j'ai une vie de célibataire. Si je veux un soir sortir avec un copain, ma fiancée n'a pas à me dire « Non, je veux pas que tu sortes avec ce copain, etc. etc. » Normalement, c'est pas... Voilà. Je reste libre de voir des gens. Et c'est important que je voie des gens en dehors de ma fiancée, justement pour rester libre dans ma démarche et que je puisse aussi entendre les avis de copains qui ne me voient pas toujours avec ma fiancée tout le temps. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, et donc, pour en revenir à l'état de vie, on ne touche pas une fille qu'on n'a pas demandée en mariage. Et donc, on n'a pas une attitude extérieure qui laisse penser à tout le monde qu'on est maqué ou qu'il y a quelqu'un avec qui on a une relation particulière. C'est soit une amie parmi des amis, soit une fiancée. Mais le truc entre les deux, oui, on n'est pas encore fiancé, mais bon, machin, non, 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 faites pas ça. Ne faites pas ça, ne faites pas ça.
C'est très intéressant, vous êtes tous curieux, hein. Faites pas semblant. Allez-y.
Oui, oui.
J'étais chrétienne avant, puis j'ai perdu la foi. Et maintenant, après, je me suis convertie à l'islam. Et après, finalement, je suis revenue à Jésus, donc j'ai les deux. Et du coup, je suis un peu perdue dans ces deux façons de voir, dans l'islam et dans le christianisme. C'est assez différent, mais il y a une chose qui se retrouve. Et il y a le truc de. Dans l'islam, par exemple, on peut faire connaissance avec quelqu'un, on dit sortir avec, mais il y aura toujours la présence d'un tiers. Par exemple, il n'y aura jamais son jardin tête à tête. Dans le christianisme, je ne suis pas sûre. En fait, je crois que
non, aller au restaurant avec quelqu'un, ça n'est pas le toucher.
Oh non,
on peut aller dîner avec quelqu'un.
On ne pourra pas aller au restaurant en tête à tête avec quelqu'un. Il faudrait dire qu'il y a un tiers, en fait. Du coup, là, c'est différent. Okay. Et toucher, je veux dire, par exemple, si un ami, je prends les bras pour lui dire au revoir ou pour le conforter, ça, c'est bon ou pas?
Non, non, du toucher, c'est des gestes de tendresse un peu poussés.
Voilà, c'est plus que.
Oui.
Bah, vous.
Sauf que du coup, c'est pas perçu de la même façon. Une fois, j'ai pris
quelqu'un
dans mes bras, un ami, et j'ai senti que pour lui, c'était autre chose.
Ah ben oui, non, mais... Oui.
Bah, quand vous prenez un garçon dans vos bras, il faut faire un peu attention. Mais enfin, disons que... c'est sûr que... voilà, en tout cas, vous ne vous prenez pas par la main dans la rue si vous n'êtes pas fiancé, quoi. Enfin, voilà, vous ne prenez pas par la main dans la rue. Et normalement, les autres n'ont pas le sentiment que vous formez un petit couple. Oui, alors attention, une petite note sur les projections parentales. Donc Anne-Claude l'a dit. Moi, j'ai une très bonne amie que j'ai pourtant beaucoup secouée à l'époque, qui avait fait la flottille Saint-Jacques avec nous, qui est toujours célibataire aujourd'hui, qui avait trouvé un garçon et qui m'a... Parce que je lui avais demandé, je lui ai dit, mais alors, tu te maries pas, etc. Elle m'a dit, si, bah, j'ai trouvé un garçon, mais je peux pas me marier avec lui parce que je veux pas faire de peine à mon père. Je lui dis, mais en fait, c'est ta vie, quoi. C'est pas, je vois pas le sujet. Bon, en l'occurrence, c'était une sombre histoire de famille et de titre de noblesse. Enfin, je lui ai dit, mais t'es complètement à l'ouest, quoi. C'est pas ce que dit l'Église. Enfin, écoute ce que dit l'Église. T'as été à la flottille Saint-Jacques, t'as écouté le père Marie-Alain. Enfin, c'est pas le sujet, là. Il m'a dit, oui, mais je peux pas faire ça à mon père, tu peux pas comprendre. Ben, j'ai dit, si, je comprends très bien. Mais je comprends très bien que tu vas flinguer ta vie pour faire plaisir à ton père, qui va mourir. Et un jour, tu vas te retrouver seul. Mais... Donc, vous ne trompez pas de critères. Et si les parents ont des critères qui ne sont pas ajustés, bah, le Christ a dit, on quittera son père et sa mère et je mettrai une séparation entre la mère et la fille. Enfin, il y a des critères qui sont justes. Est-ce que la personne me fait grandir? Est-ce qu'elle me conduit à la sainteté? Tout ça, c'est juste. Si les parents vous posent ces questions-là, c'est juste. Si c'est d'autres critères qui sont très extérieurs ou qui sont... parce que les parents veulent briller avec un mariage comme ci ou comme ça, méfiez-vous, on n'est pas dans le sujet, là.
Alors on va conclure, parce que maintenant, vous allez rentrer en travaux pratiques, donc nous allons conclure. Donc la première chose, donc on va résumer très vite. La première chose qui nous a fait énormément grandir, c'était qu'on a obéi à l'Église. pas une obéissance aveugle, une obéissance intelligente. C'est-à-dire qu'on a lu, on s'est renseigné, on s'est formé, on s'est documenté pour être dans une obéissance intelligente, quoi. Hein. La deuxième chose, il s'avère qu'on est moniteur Billings, la méthode naturelle de régulation des naissances. Et ce qui nous a vraiment énormément impressionné, c'est que...
Là, on peut préciser, c'est encore un coup de Marie-Laure.
Oui, bon, c'est un coup de Marie-Laure.
Parce que j'étais à peine fiancé. J'étais à peine fiancé que j'ai été revoir Marie-Laure en lui disant « Bah voilà, ça y est, je suis fiancé, j'ai suivi tes conseils, je suis fiancé. » Elle me dit « Ah, bah c'est très bien. Et donc, vous avez fixé une date pour le mariage ?» Et donc, je lui dis « Non, pas tout de suite, mais bon, voilà. » Donc, après, on a fixé une date pour le mariage. Je suis revenu la voir en disant « Ça y est, j'ai une date pour le mariage. » Elle me dit « Bah c'est très bien, t'es en pleine préparation de ton mariage. Est-ce que t'as pensé à te former aux méthodes de régulation naturelle des naissances ?» Je lui dis « Non, mais là... Si, il faut que tu te formes pendant tes fiançailles. »
Voilà. Donc, on y est allé. Pour tout vous avouer, moi j'étais rouge pivoine parce que parler de ce genre de choses devant tout le monde, mais j'étais terrorisée. Et puis, c'était le genre de sujet qu'on n'abordait jamais dans ma famille. Donc, mon Dieu, parler de tout ça avec des gros mots, tout ça, c'était la totale. Donc, et je suis devenue monitrice bilingue, c'est voilà, 2 ans à la naissance de notre fille Claire. Donc, voilà. Et ça, c'est un enseignement qui est fait par l'Église, et on a pu voir toujours dans l'obéissance, cette obéissance respectueuse et intelligente, combien ça faisait grandir le couple, combien ça faisait grandir tout le monde, la famille. Ça, c'est la deuxième. Donc, l'obéissance, l'histoire de la famille, de Billings. Et la troisième chose, c'est... en fait, on a besoin de vous, parce qu'on se sent un peu tout seul, là, à être des familles chrétiennes. On a besoin, maintenant, de familles chrétiennes avec des enfants. Des enfants qui deviennent des petits chrétiens. Donc, il faut arrêter de perdre votre temps. Il faut vous marier. Ou choisir la vocation religieuse. Parce qu'on a autant besoin de prêtres et de religieux. C'est aussi important. Donc, il n'y a pas de petite de grande vocation. Mais ça, vous le savez par cœur. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Donc, bah, on va vous laisser. Maintenant, il y a un buffet derrière, je crois.
Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser des questions? Est-ce qu'on a le temps? Nous, on est disponibles. C'est comme... oui.
Bonsoir, monsieur. J'aimerais réagir à certains points de vos exposés. Parce que je souhaite qu'il y ait beaucoup de confusion et d'impression sur les termes. Je trouve qu'on n'a pas répondu à la question non plus. Tout d'abord, vous commencez votre exposé en évoquant le conseil de prêtre qui demande de classer des targets, des femmes potentielles à qui il faudrait vous marier. Et ça me semble prêter le flanc à un excès qui me semble d'actualité, qui est celui de vouloir choisir le conjoint selon des critères. Vous ne répondez pas à cette première question qui, je pense, préoccupe beaucoup de personnes. Okay. Qu'est-ce qui fait que l'autre est la bonne? Ensuite, vous discutez longtemps des fiançailles. Parler des fiançailles nécessite de savoir qui est l'autre. La question n'ayant... Moi, j'ai pas eu de réponse à cette question, donc j'ai l'impression qu'on a brûlé une étape. Vous évoquiez les fiançailles comme étant faites pour être rompues. Alors certes, c'est un bon mot, je veux dire ce que ça veut dire. Vous avez quand même oublié de préciser que les fiançailles, en premier lieu, c'est un sacramentel qui prédispose à recevoir une grâce particulière, la grâce du mariage.
Oui.
Et que ensuite, vous allez dire après que c'est Dieu qui marie.
On ne prétend pas avoir fait un cours de théologie sur le mariage. Hein.
Oui, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir vos questions. Enfin, je suis preneur après, si vous voulez, hors off, je vais vous donner mes coordonnées de la critique de notre conférence, c'est toujours très intéressant. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les questions que vous avez, en fait.
Mais c'est des remarques pour que vous répondiez.
Ah oui, oui.
Ensuite, bon, j'ai trouvé que vous prêtez le flanc à une démarche très fusionnelle du coup. Vous dites que...
Non, mais c'est pas une question, ça.
Non, c'est pas une question, c'est une remarque.
Oui, oui.
Je pense que c'est pas le moment.
À quelle question ?
Bon.
Oui. On va prendre toutes les questions et après.
Ensuite, vous avez dit que pour justifier les fiançailles, que on aime que ce qu'on connaît. Non, vous dites on connaît que ce qu'on aime.
Oui.
Or, saint Thomas dit absolument l'inverse. On aime que ce qu'on connaît et on peut le justifier facilement. Comment ? Non, non, c'est très important parce que. Et parce que l'amour, c'est un être de la volonté, en fait. C'est la définition. Donc c'est, c'est l'intelligence qui éclaire la volonté. D'où la nécessité de connaître l'autre pour l'aimer. Voilà. Donc forcément, l'acte de volonté, on n'avait pas trop parlé. Et pour ce qui est que le fait soit Dieu qui marie, c'est en effet Dieu qui dispense la grâce, mais c'est l'Église qui en effet a autorité pour les sacrements, et en plus, dans le sacrement du mariage...
Ce sont les conjoints qui sont ministres.
Ce sont les époux qui sont ministres du sacrement.
Qui sont ministres.
Sous condition d'une
bénédiction. Qui sont ministres du sacrement qui est donné par Dieu quand même.
Oui, oui. Mais c'est pas Dieu qui marie.
Non, 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 Dieu ne marie pas. C'est
ce que vous avez dit.
Oui, mais peut-être
oui,
dans...
mais bon, enfin, pardon, c'est pardon. Suffisamment compliqué comme sujet. Non, 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 attendez, c'est pas anodin.
Non, mais t'es là que pour critiquer. Oui.
Oui. Alors,
mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Je commence derrière.
On est habitué à la critique.
Je pense que dans une de ces questions,
oui.
Comment on discerne
plus fort.
Comment on discerne si c'est la bonne personne. Bonne personne ou pas, hein, sur cette question de choix, en fait. Hein.
D'accord.
Est-ce que seulement un élan suffit pour poser la grande question? Ou parce que, en fait. La plupart des gens qui sont célibataires, c'est avant la question du mariage qui se pose. Après, normalement, en effet, on est beaucoup aidé par l'Église et tout, mais il n'y a rien avant. C'est peut-être ça qui est... En fait, c'est votre exposé, enfin, moi, j'ai bien aimé, j'ai compris le fond, mais c'est vrai qu'il était un petit peu carré. Du coup, ça pouvait porter à des interprétations un peu moins fines.
Oui.
Merci beaucoup pour votre témoignage. J'avais une question, notamment au rôle de la femme. Puisque c'est le garçon, du coup, vous dites que c'est important que ce soit lui qui, que ce soit l'homme qui vraiment s'engage en posant cette question de la demande en mariage. Quand il n'y a pas de demande en mariage, c'est qu'une femme qui peut très bien être amoureuse de son côté, et il y a un moment donné où on a aussi envie d'avancer de notre côté, et donc est-ce que on se dit bon bah il me pose pas la question, et je vais essayer de montrer mon intérêt pour cette personne qui n'a aucune question, donc je balaye tout ça. Ou est-ce qu'on peut en parler aussi, parce que ça peut peut-être aider à passer à autre chose d'avoir...
Oui, oui. Bonne question, j'ai noté la question. On va y répondre.
Bonsoir. J'ai une question très précise qui revient au titre de votre intervention. Du coup, est-ce qu'il y a une âme sœur, ou est-ce que Dieu a placé donc pas très loin de nous, comme vous l'avez dit? Ou est-ce que c'est plutôt que on va en pèlerinage, on peut choisir parmi les 15 filles, ou en pèlerinage. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a une personne, il faudra reconnaître, ou est-ce que à un moment, voilà, faire un choix, peut-être dans ce point.
Alors, je vais répondre en sens inverse. Est-ce qu'il y a une personne ou pas? Je pense que personne n'a la réponse parce qu'on n'est pas à la place de Dieu. Nous, on a notre avis sur le sujet. Notre avis sur le sujet, c'est qu'il n'y a pas une personne et qu'en fait, vous pourriez très bien fonder une famille avec plusieurs femmes et être heureux en famille avec plusieurs femmes dans le monde.
Tu fais quoi, là
Pas en même temps. Hein. Je veux dire, il y en a plusieurs avec qui vous pourriez fonder une famille et être heureux. Hein, pas en même temps, évidemment. Donc, nous, ça c'est notre avis. Maintenant, on n'est pas à la place de Dieu. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce que Dieu vous demande, c'est de poser un choix. Et ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que Dieu va vous aider à valider ce choix si vous avez des vraies fiançailles chrétiennes. C'est-à-dire qu'il va valider ou pas votre choix. C'est-à-dire que vous allez poser un choix et Dieu va vous dire « Non, là, t'es complètement à l'ouest » et vous allez le savoir, ça va venir. Il y a un prêtre qui va vous dire, un ami, enfin, voilà, ça va converger vers quelque chose qui ça le fait pas. Ou alors, le choix, il est validé. La réalité, quand même, c'est que 98% des fiançailles, 95% des fiançailles sont rompues par un mariage. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont faites pour être rompues par un mariage. Il y en a 5% qui vont être rompues différemment. Voilà. Donc, voilà. Sur la question, est-ce que...
C'est vrai que les garçons, c'est très difficile pour un garçon de demander en mariage, hein, parce qu'ils se reçoivent des vestes, parce que le monde fait que on n'a quand même pas envie de se marier, on est quand même vachement bien en statut de célibataire et tout ça, on gagne beaucoup d'argent, la vie est intéressante, on voyage, patati, je ne vais pas vous faire de dessin, vous connaissez ça par cœur.
Oui, l'homme a été très démasculinisé par la société actuelle, hein. Donc c'est très très difficile pour lui aujourd'hui de tenir son rôle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, encore pire qu'à mon époque, notamment, vous êtes dans des âges où vous finissez des études supérieures, il faut savoir que la femme est maintenant première partout, sauf dans les écoles d'ingénieurs. Mais dans tous les autres domaines, que ce soit médecine, que ce soit droit, que ce soit commerce, que ce soit management, que ce soit... Elle est en tête de classement partout. Donc elle est leader partout. Donc, pour l'homme...
Nous, on est presque en train de se bagarrer dans notre paroisse pour qu'il n'y ait pas de filles dans le cœur, pour qu'il y ait au moins un endroit où les garçons soient seuls, quoi, servant d'hôtel, que leur côté garçon soit reconnu. On se bagarre, nous, chez nous. Là.
Donc, c'est très difficile pour les garçons. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous, il faut les aider. C'est vrai qu'il faut les aider. Alors, la première chose pour les aider, c'est d'être accueillante, de vous montrer accueillante, de pas commencer à parler de vos exigences, de vos désirs, de vos machins. Mais moi, il faut qu'il soit comme ci, comme ça, comme ci. Donc là, le type, bon, c'est bon, je vais jamais être dans le truc. Enfin, il faut pas vous montrer. Il faut vous montrer, à l'image de Marie, quoi. Marie, je pense pas qu'elle a mis la barre comme ça à Joseph, quoi. Enfin bon. Il faut vraiment être accueillante. Il faut montrer que vous êtes prêt à suivre quelqu'un et que c'est pas vous qui allez prendre le lead sur le sujet. Et alors effectivement, nous on a été très marqués par un témoignage qu'on a eu d'une amie d'Anne-Sophie qu'on a rencontrée le week-end dernier, où en fait effectivement elle formait un petit couple avec son homme, voilà, ils se voyaient, tout se passait bien, etc. Ils étaient très heureux ensemble. Et à un moment donné, elle lui a dit mariage machin, et l'autre, il a dit, mais attends, on n'est pas pressé, on est bien comme ça, etc. On peut voir ça, on peut y réfléchir dans un an, etc. Et en fait, elle a eu le courage de lui dire, tu peux toujours y réfléchir dans un an, mais ça sera sans moi. Parce qu'en fait, si tu n'es pas prêt à me demander en mariage maintenant, c'est que je ne suis pas la femme de ta vie. Et donc, si je ne suis pas la femme de ta vie, en fait, un amour d'amitié avec toi, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, moi, il faut que je construise ma vie, tu comprends ? Et du coup, ça l'a fait super réfléchir et ça l'a fait basculer. Alors évidemment, c'est le cas...
Garçon, hein.
Le garçon. Et donc, il l'a demandé en mariage, voilà. Donc, évidemment, c'est le cas où ça a été extrême. Le mieux, c'est quand même de passer éventuellement par des relais ou par des amis en essayant de le bousculer. Mais c'est vrai qu'il faut il faut aider les garçons à y aller, quoi. Il faut aider les garçons à y aller et... Encore une fois, ça je le répète, avant de vous fiancer, il n'y aura pas de critères objectifs. Donc ne vous attendez pas à avoir une lumière, une étincelle, un truc qui vous dise « oui, c'est elle, ça y est, c'est elle ». Enfin voilà, le Seigneur ne va pas vous la présenter comme ça « ouais, c'est elle », tu vois. Ben non.
Si, j'ai des copains qui s'est arrivé. Elle était à la messe, puis elle a vu un halo de lumière sur le garçon, et c'était lui, et il a demandé en mariage à la fin de la messe, je crois, ou deux jours après. Et est-ce qu'elle avait vu ce halo de lumière, elle s'est dit « c'est lui ». Bon, chacun ses critères, hein. Oui. Ah oui, par rapport à l'élan, voilà. Faut pas non plus être stupide, hein. C'est pas parce que vous voyez, si Géraldine rencontre Paul lundi et que Paul se dit, ouais, c'est elle le lendemain, voilà, ils se sont jamais vus avant, et puis en deux jours, il s'est dit, tac, tac, c'est elle. Bon, je crois que les jeunes de Saint-Jean proposent un week-end en Bourgogne, puis après, vous pouvez aller marcher sur les chemins de Saint-Jacques, après, vous pouvez faire je sais pas quoi. Ce genre d'activité fait que vous vous connaissez au milieu des autres. Vous n'êtes pas... Voilà. Vous apprenez à vous connaître. Voir quelqu'un qui marche sur les chemins de Saint-Jacques, ça la met en vérité habituellement, parce que vous marchez avec des pieds un peu abîmés, vous avez faim, vous avez soif, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol, vous demandez pourquoi vous n'êtes pas au Club Med tranquillement, ça met en vérité. Et ce genre d'activité fait que l'élan, y a quelqu'un vers qui vous allez plus que d'autres. Enfin, c'est pas... voilà.
Oui, mais enfin, moi, je vais être très cash. Hein. J'ai choisi Anne-Claude à un moment donné parce que j'avais un ultimatum, que j'avais fait une promesse au Seigneur et qu'on m'avait dit que... Et après, je répète le petit indice que j'ai donné quand même. La personne, elle a quelque chose que vous n'avez pas. Et c'est vrai qu'Anne-Claude avait quelque chose que je n'ai pas. Elle est très différente de moi sur le caractère. On a des caractères qui sont très opposés. Voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est pas... Il n'y a rien de rationnel. Vous le savez très bien, le sentiment humain n'a rien de rationnel. Vous êtes attiré par quelqu'un, allez expliquer pourquoi vous êtes attiré. Autant faire la quadrature sur cercle, vous le savez très bien. Donc on est attiré, c'est un élan. Après, on fait du bateau, la marche à Saint-Jacques, machin. On voit bien si cet élan est confirmé. Enfin, puis après, vogue la galère, quoi. Parce que c'est la galère, quand même, le mariage, faut pas rêver. Hein.
Non, mais le rôle du garçon, c'est vraiment de dire « je t'ai choisi, et c'est toi que je veux ». C'est ça, son rôle. C'est ça qu'il faut qu'il fasse, à un moment donné. Et il n'aura pas... Avant de faire ça, il n'aura pas la certitude que c'est ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça sort.
Hein ? Pardon ?
Vous pouvez montrer que vous êtes ouverte, accueillante et disposée. Enfin, je veux dire... vous pouvez montrer à un jeune homme que vous êtes ouverte, accueillante et disposée quand il cherche à rentrer en contact avec vous. Enfin, je veux dire...
Bon, on choisit quand même. Vous dites que...
vous pouvez choisir de dire oui ou non.
Non, non, c'est pas ma question. Quand vous dites c'est l'homme qui va choisir, moi, ça me... enfin, peut-être je comprends mal, hein, mais j'ai l'impression que du coup, on est un peu en mode passive et c'est un truc...
Non, vous n'êtes pas sur catalogue, faut pas rêver. Non, faut pas rêver. Faut pas, c'est le cauchemar. Enfin, c'est du cauchemar. Non, c'est du cauchemar. Vous n'êtes pas sur catalogue. Page 1, Albertine, page 2, Joséphine. Non, on est bien d'accord. Mais quelque part, il vous choisit parce que dans son cœur, son cœur palpite parce que vous êtes là et que vous êtes jolie et qu'il a envie de vivre sa vie avec vous. Il vous choisit.
Oui.
Non, oui, mais vous avez une beauté toute particulière à ses yeux.
Voilà. Alors là, je vais revenir sur la théologie de l'Église. C'est quand même très important. Aujourd'hui, dans la société, il n'y a plus de chef de famille, mais dans l'Église, il y a quand même encore un chef de famille. Hein. C'est-à-dire que Joseph, c'est quand même le chef de famille. Donc, c'est très... Et, alors nous, avec notre expérience, on peut vous le dire, c'est super important que le futur chef de famille, ce soit lui qui demande son épouse en mariage. C'est super important que quand ça clash entre les deux, ce soit la fille qui dise « Ah non, mais attends, moi j'avais rien demandé, hein, t'es venu me chercher, t'assumes. » C'est super important. C'est super important que ce soit pas l'homme qui dise « Ah non, mais attends, moi j'avais rien demandé, tu m'as sauté dessus. »
Le jour où il a passé le pas avec sa fiancée, enfin il n'était pas fiancé,
sa compagne, quoi.
Ensemble, ouais. Ils étaient amoureux et ils cheminaient ensemble. Et le jour où il a passé le pas, c'est parce qu'en fait, elle lui avait dit qu'elle aimerait bien se marier et lui, il avait dit non, en fait, je ne vois pas parce qu'en fait, il ne ressentait pas le manque. Vous allez me dire, les gars, si vous avez des choses dégueu. Mais en gros, les femmes, peut-être qu'elles ont aussi à faire sentir ce manque aux garçons en se retirant un peu et en ne faisant pas plus que ce qu'elles doivent faire. Et là, en l'occurrence, sa future épouse, elle a arrêté de faire toujours le trajet tout simplement pour venir chez lui dîner. Et en fait, et ben, au bout d'un moment, elle se dit « Mais c'est super chiant d'aller jusqu'à chez elle pour dîner. Et ben, on va se marier et...
Voilà. Mais oui, mais c'est ça, mais oui.
Très bien.
Le manque qu'il avait besoin d'elle, hein?
Mais très bien, mais c'est une attitude juste. Moi, ça me paraît très juste. Et tout à perdre à pas se fiancer.
Ben voilà, est-ce qu'on n'aurait pas aussi un peu peur de souffrir ou vouloir faire souffrir, enfin, pas vouloir, mais faire souffrir à tort la personne en face, si ça se passe mal ou si les fiancés ne sont pas
rencontrés ? Très bonne question. En fait, vous allez vous rendre compte que le mariage, la période de fiançailles, c'est la période pendant laquelle je vérifie deux choses. Je vérifie, un, que je suis prêt à donner ma vie à cette personne-là pour son bonheur, à celle-là. Je donne ma vie à celle-là. Est-ce qu'elle vaut que je lui donne ma vie, cette personne? C'est quand même un peu ça la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que la personne qui est en face de moi est prête à donner sa vie pour mon bonheur? Parce que le but, c'est que je sois heureux aussi, quand même, dans l'histoire. Donc, est-ce qu'elle va vraiment donner sa vie? Et ça, il faut que je le valide pendant les fiançailles aussi. J'ai le droit, c'est mon droit de le valider avant de me marier. Et chaque personne va valider ça. Si, à un moment donné, il y en a un des deux qui valide que l'autre ne va pas se donner ou que l'autre n'est pas prêt à se donner, en fait, ça va être mutuel. C'est-à-dire que ça ne va pas être que d'un côté. C'est-à-dire que ça va être mutuel où ils vont tous les deux se dire « Bah non, moi je ne suis pas prêt à me donner pour elle » et puis elle va dire « Ah non, je vois bien que tu n'es pas prêt à te donner pour moi. » Et donc finalement, ce n'est pas la peine qu'on y aille, ça ne va pas le faire. Et en fait, le « ça ne va pas le faire », il va concerner les deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que je vais faire mal à l'autre. Et si vous vivez des vraies fiançailles, donc des fiançailles sans vie commune, il n'y aura pas de souffrance, parce que vous restez des célibataires quand même, des célibataires fiancés, mais vous restez des êtres libres, autonomes, qui avaient votre vie et qui vous fiancez. Donc en fait, la rupture, ça ne sera pas comme une rupture de vie commune. Une rupture de vie commune, ça fait vachement mal. Mais une rupture, il n'y a pas de rupture là, parce qu'il n'y a pas de vie commune. Vous êtes restés... Oui, mais c'est là que la discussion va être super intéressante. C'est, je pense que je peux te faire grandir. Et donc l'autre va dire, ah bon, pourquoi? Et voilà, et donc là, on va commencer à discuter des vraies choses. Sur quoi tu vas me faire grandir, pourquoi tu vas me faire grandir, etc., etc., etc. Et donc là, si vous aimez l'autre, c'est que vous avez envie de donner votre vie pour le faire grandir, pour le conduire vers la sainteté. Si vous lui expliquez tout ça, l'autre, il sera forcément ou touché, ou il dira, ben non, je suis désolé, je le sens pas, enfin, je... Mais dans ce cas-là, vous non plus, ça vous dira plus de continuer, parce que ben, je ne sais pas comment dire. Des fiançailles rompues, c'est jamais un drame. Des mariages rompus, oui, mais des fiançailles rompues, c'est jamais un drame. Enfin.
C'est la rupture de vie commune.
Attendez. C'est aussi pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous faire accompagner, parce que moi, j'avais rompu mes fiançailles grâce à l'accompagnement qu'on avait. J'ai pu revenir dans le droit chemin parce que j'étais en train de faire une connerie. C'est aussi pour ça qu'il faut être accompagné, parce qu'on peut faire des conneries, ça c'est vrai. Donc la présence d'un directeur spirituel pendant les fiançailles, c'est super important. Parce que lui, il va discerner, lui, il va dire, ben non, oui ou non, c'est bon, ta raison est bonne pour arrêter, ou ta raison, elle n'est pas bonne du tout, là, t'es à l'ouest, là.
Je vais continuer les questions, plus comme ça on commence le
repos. Comme vous voulez.
Merci beaucoup.
Ça arrive que les rapports. Non, il n'y a pas de vie. Maintenant, ça a dit qu'il y a.